On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Est-ce qu'on peut dire que la pomme de terre, comme le fromage, est à la cuisine helvétique ce que Guillaume Tell est à son roman national?
Oula, pas mal. J'avoue ne pas aimer la sangria. Faut certainement ne pas avoir goûté la bonne.
C'est un peu comme en anglais quand on vous propose du pudding, c'est du gâteau. Mais le black pudding, c'est
du
boudin.
C'est du boudin, bravo.
J'ai trouvé cette recette dans l'unique livre à ma connaissance
de livres
de recettes sardes en français.
Spontanément, là, comme ça, Antoine, avec des spaghettis alla botarga.
Oh, blanc méditerranéen, bien évidemment. Ça peut être une clairette.
À la française, absolument.
Oui, avec
trois lardons, un peu d'oignon et en laissant dans son nom. Oui.
Vous les avez sûrement reconnus. Par ordre d'apparition, nous entendions Elvire Amasson, Dominique Hutin, Esther El Payani, Déborah Dupont, Antoine Gerbel et Arnaud Daguin. Trois chroniqueuses, trois chroniqueurs. C'est la fine équipe dont on va déguster presque au complet. Je suis ravi d'être avec vous. Salut les amis.
Bonjour.
Salut tout le monde.
Bonjour. Comment ça va?
Bien et vous?
Super. Je suis ravi de vous avoir tous autour de moi pour une émission totalement papy-bore. Au cœur du Salon du Livre de Paris, nous avons téléporté notre plateau Porte de Versailles à Paris devant un public venu très nombreux. Merci beaucoup et bonjour à tous. L'invité de cette 39e édition de ce grand rendez-vous des livres, c'est l'Europe. Alors évidemment, on va moins parler des élections européennes qui arrivent à grands pas que de l'Europe dans toute sa diversité culturelle et culinaire. Je vous propose un tour de l'Europe gourmande à travers des livres de cuisine, des recettes et de belles histoires. L'histoire par exemple de la Venise épicurienne d'une auteure anglaise, l'histoire d'une grande dame de la littérature française éprise de brioche suédoise, si c'est possible. Une histoire de bière artisanale de toute l'Europe dans un lieu un peu particulier à Amsterdam, n'est-ce pas Dominique? Retrouvez d'ores et déjà tous les choix dont on va déguster, nos infos pratiques, nos livres coup de cœur, nos recettes ainsi que le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Le Salon du Livre, c'est en ce dimanche et jusqu'à demain lundi la plus grande librairie de Paris avec des centaines d'éditeurs, d'auteurs, des milliers de livres à notre disposition. Et si on recommandait quelques lectures à nos auditeurs et notre public, quelques lectures qui nourrissent le corps et l'esprit, c'était le cahier des charges adressé à mes chroniqueurs et chroniqueuses honneur à notre libraire gourmande Déborah Dupont. Vous avez choisi un livre dont le titre mérite quand même une explication.
C'est un livre sans recette, ou plus exactement avec une recette pour monter un restaurant extraordinaire. Sous-titré « Travailler avec un handicap mental, c'est possible », cet ouvrage intéressera les 65 000 porteurs de trisomie 21 en France, leur entourage familial, mais aussi les entreprises du secteur de la restauration qui peinent à recruter. Je rappelle qu'il y a 150 000 postes vacants dans le secteur. Et qui ont sans doute entendu parler du succès du restaurant Reflet à Nantes.
Oui, le restaurant Reflet à Nantes, hautement recommandable.
Mais il y a aussi Guillaume Gomez dans les Brigades de l'Élysée, le CFA Médéric à Paris avec son directeur adjoint Jean-François Tostivin, ou même une adresse à Rome, Locanda dei Girasoli, des adresses à Buenos Aires, d'autres adresses en France. Ce livre, en fait, montre à quelles conditions il est possible d'employer dans un milieu ordinaire ces travailleurs extraordinaires, avec quelques adaptations qui sont vraiment pas très compliquées à mettre en place. On arrive à employer des personnes porteurs de trisomie 21 dans un milieu ordinaire, et les clients sont ravis, ça se passe très bien dans les brigades, et c'est vraiment une initiative formidable qu'il faut encourager. C'est un livre avec des textes, des illustrations façon roman graphique, très joliment mises en page, et je vous encourage tous à le lire, l'acheter, partager autour de vous cette initiative.
Vous nous en rappelez les références, s'il vous plaît, Déborah, c'est essentiel.
Restaurant extraordinaire, édité par Trinôme 44 Éditions et les presses de l'EHES.
Un livre qui prouve qu'on peut être un restaurant économiquement viable et gastronomiquement réputé avec une majorité d'employés qui sont porteurs de trisomie 21. Oui, c'est important de faire œuvre sociale. Antoine Gerbel, il est avec vous, question de bulle, mais d'une bulle d'un format un peu particulier.
J'ai un petit livre rose, voilà, ça dit beaucoup de choses sur mon engagement politique. Petit livre rose signé Sébastien Lapac. Oui. Vous enlevez un Q à Lapac, ça fait la QE, ça fait la page. C'est pas pour rien. Chronique littéraire que vous connaissez peut-être, qui officie au Figaro, grand buveur devant l'éternel, avec parfois beaucoup d'excès, c'est ce qui fait énormément le charme de ce personnage. Un grand écrivain dont on a déjà parlé à On va déguster, grand écrivain qui se passionne pour plein de sujets, et quand il se passionne pour le vin, c'est exceptionnel. Là, il nous livre un petit livre à propos d'un vigneron, on peut dire iconique, j'aime pas trop ce mot, il est un peu toutes les sauces, mais iconique, de la Champagne, il s'appelle Anselme Selos.
Bien sûr.
Anselme Selos qui a depuis 30 ans mis la Champagne par-dessus tête, a tout chamboulé, a tout remis en question, surtout cette idée préconçu qu'on a un peu tous de cette boisson gazeuse, festive, un peu standardisée, qu'en ont fait d'ailleurs les champenois eux-mêmes. Anselme Selos, il est vigneron à Avize, il a pas beaucoup d'hectares, mais en se s'ancrant sur ce terroir d'Avize, qui est le chardonnay, son cépage principal, il a raconté une histoire du champagne différente. Son champagne principal s'appelle Substance. Ça veut tout dire, voilà, vous avez un concentré de cette matière qui est la craie qui donne naissance au grand champagne. Et donc, la Pâque, il divague. La PAC divague beaucoup, mais il ne dit rien de vague. C'est-à-dire qu'il a une énorme précision donc quand il raconte le parcours du vigneron, quand il raconte l'histoire de la Champagne, qui n'est pas toujours jolie, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'actions politiques bizarres en Champagne, surtout après-guerre, avec la création de l'interprofession Champagne. Il raconte aussi pourquoi on doit absolument goûter les champagnes d'Anselme Selos. Voilà, Sébastien Lapac, la théorie de la bulle carrée.
Et pourquoi la bulle carrée, justement ? C'est la définition du champagne selon Anselme Selos.
J'attendais votre réponse. C'est la résistance, c'est cubique, c'est pointu, c'est tous au front.
C'est ça. Et ce qu'écrit d'ailleurs Sébastien Lapac, dont on salue la plume, qui est tout en pureté, peut-être à l'image des vins et des vins de champagne qu'il évoque. La visite chez Anselme Selos était mieux qu'un rendez-vous de dégustation. C'était un exercice spirituel, une promenade dans les hauteurs, une élévation de l'âme. Théorie de la bulle carrée de Sébastien Lapac, hautement recommandable, qui s'était déjà intéressé à Marcel Lapierre, vigneron là aussi iconique, même si on n'aime pas trop cet adjectif, il y a quelques années. Merci beaucoup pour ce conseil, et c'est chez Actes Sud, Antoine Gerbel. Dominique Hutin, toujours question de vin avec vous, ou plus exactement de France et d'alcool.
Oui, tournée générale, bon, d'abord j'aime bien le titre, disons-le. Et puis ça rappelle que le vin a écrit une partie de son histoire au bout du zinc. Voilà, c'est un bouquin qui entre aussi un peu en résonance avec d'autres livres qui l'auraient précédé. Je pense notamment à La mort du vin de Raymond Dumais. Alors La mort du vin, c'est un peu plus sympa que ce que laisse présumer son titre, qui a un poil mortifère. Sauf que La mort du vin, c'est 1976. Donc il y avait certainement du sens, une nécessité à réexaminer, reproduire un nouveau focus sur ce pan culturel foncièrement franco-français. Et voilà, c'est ce à quoi s'emploie ce bouquin, tournée générale. Et un des auteurs que j'interrogeais résumait la chose comme suit, c'est dresser un portrait de la France à travers le prisme de l'alcool. Voilà. Ce qui permet de saisir nos spécificités au cœur d'une Europe du vin qui est en train de se recomposer de manière assez rapide. Alors par exemple, on a deux univers traditionnels en Europe qui sont scindés d'une manière très 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 précise. C'est d'un côté la France, l'Espagne, l'Italie qui sont les pays de la vigne par exemple, qui vont avoir des consommations quotidiennes, mais finalement assez peu alcoolisé. Et l'autre côté, et je parle sous le contrôle d'Elvira,
notre moitié suédoise.
Les pays de céréales, donc effectivement, par exemple les Pays-Bas, l'Angleterre, etc., les Suédois, les Nordiques, qui eux sont bon, bière, gin, vodka, avec des alcoolisations qui sont certes ponctuelles, mais plus intenses. Eh bien, on s'aperçoit à travers ce bouquin que cette opposition, elle est en train de changer. Toute l'Europe se met à boire un peu de la même manière, chacun empruntant à l'autre dans son rapport à l'alcool. Donc voilà, c'est documenté, ça se boit comme du petit lait, enfin du petit lait, disons comme un rouge léger, intense et généreux.
Ça voilà. Se boit plus sec.
Ça se boit plus sec, si vous le voulez. Ça fourmille d'anecdotes, notamment l'utilisation du vin comme outil diplomatique. C'est très bien ficelé, et on y apprend par exemple comment Jean-Pierre Soisson faisait boire les conseils des ministres européens avec du Chablis pour lubrifier un petit peu les négociations.
C'est ça, très voilà. Bien, tournée générale.
Chez Flammarion, 19 euros.
La diplomatie de l'alcool. Chez Flammarion, absolument un dernier conseil de lecture avec Arnaud Daguin qui se met au manga nippon.
Je fais le jeûne, donc je vous parle d'un petit manga qui nous a beaucoup plu. Il s'appelle Mes petits plats faciles, un titre oubliable. Une histoire infime, un manga génial par le scénariste du Gourmet solitaire dont Sterel nous avait déjà parlé. Alors voilà, Anako, feignasse de compétition, a faim, donc elle mange, mais avant elle se fait à manger. Et elle se fait à manger comme une feignasse avec ce qu'elle trouve. Heureusement, elle a toujours du riz, du miso, des algues, du ketchup, de la mayo. et beaucoup d'autodérision. Un jour, elle appelle sa mère, un jour, elle achète du bœuf, et même une fois, il pleut. Vous dire si c'est palpitant. Tenez, je vous lis une recette d'Anaco, c'est la numéro 2, je la lis texto. Faites un trou-trou dans le riri, cassez le nœud-neuf, mettez le nœud-neuf dans le trou-trou, percez le jaune avec vos baguettes, et là-dessus, laissez couler délicatement un filet de sauce soja. Mélangez vaguement tout ça. Attention, tout est dans le vaguement. Fin de citation. Elle est comme ça, Anaco, dans le vaguement, le pifomètre. Elle mange toujours seule, souvent en pyjama. Pourtant, Anaco est mariée à un époux lointain, muté à l'autre bout de l'archipel, qu'on pourrait soupçonner être le goro du gourmet solitaire, peut-être. Un mari qu'elle évoque avec ce cri du cœur. Le regarder manger, c'est un plat en plus. Alors, vous pouvez retrouver ses aventures culinaires et les punchlines d'Anaco dans Mes petits plats faciles de Masayuki Kusumi et Etsuko Mizukawa aux éditions Komiku.
Quelle prononciation, bravo. Ben, si un jour on pouvait imaginer qu'Arnaud Daguin nous conseillerait des lectures japonaises. Très bien, l'émission est réalisée par Laurent Thomas, Nadia Chougui et Laure Grand-Besançon à la préparation, Florent Layani et Benjamin Thuot à la technique. Que nous a préparé notre programmateur musical Djoubaka, du son d'aujourd'hui aux accents vintage qui pourraient rivaliser d'ailleurs avec le meilleur rhythm and blues des années 50-60, Song for Winners du jeune musicien de Los Angeles, Nick Waterhouse. On va déguster, dresse le couvert au salon du livre et nous voyageons aujourd'hui dans le vieux continent à travers sa littérature gourmande. Je vous rappelle que l'Europe est l'invité officiel de cette 39e édition. Esther El Payani, vous rendez hommage à une grande dame des lettres françaises qui aimait les voyages et la cuisine, qui aimait aussi faire son pain maison. Vous avez peut-être une petite idée dans le public, on va essayer de deviner de qui il s'agit.
C'est tout de même un très grand plaisir que de faire le pain. Une méthode de vie, oui. Parce que le pain est une chose vivante. Ça s'est fait avec une levure qui est vivante.
Celle qu'on vient d'entendre dans ce reportage de 1971 pétrissait son pain une fois par semaine dans la cuisine de Petite Plaisance, sa maison en bois de l'île de Mont-Désert aux États-Unis. Marguerite Yourcenar, car c'est elle dont il s'agit, a en effet toujours lié les arts littéraires et culinaires. Il y a peu de différence entre le pain et les livres, disait-elle. On les pétrit pour leur donner forme et on les laisse grandir. Cuisiner et écrire pour elle, c'était un peu du pareil au même. Écrire un grand livre, c'est comme faire frire un plat de poisson ou un ragoût de légumes. C'est mettre toute l'attention, tout le talent, toute la bonne volonté dont on est capable dans une seule action. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Zénon, le héros de l'œuvre au noir, était alchimiste. Alors pour découvrir qui était au quotidien la première femme reçue à l'Académie française en 1981, et encore, pas parce qu'elle s'était portée candidate, mais parce qu'on lui avait demandé, je suis tombée sous le charme de cet ouvrage, Marguerite Yourcenar, Portrait intime.
Il est dans les mains d'Elvira.
Ouais, il est magnifique ce livre.
Hachmi Ali, paru chez Flammarion. Dans cet ouvrage, on est très loin de l'image de la dame âgée sous ses châles, au style littéraire très classique et merveilleusement intemporel. On découvre dans cet ouvrage une Marguerite Yourcenar, une héroïne d'aujourd'hui, libre et inspirante, avec une indépendance naturelle, une passion pour les animaux et la nature, et une gourmandise très sensuelle. Végétarienne à 95% parce que, tout simplement, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Elle aimait les choses prodigieusement
c'est
simples
quand même plutôt bien dit.
Et avait adopté des principes d'alimentation très clairs. Manger toujours les aliments les plus simples, les plus purs, les plus frais possibles. Elle disait aussi que cuisiner, c'est une manière de soutenir la vie de soi-même et des gens qu'on aime. C'est une manière de lutter contre l'épouvantable gâchage de notre époque. Comme vous disiez, François-Régis, c'est extrêmement bien dit. Moi, après ça, je n'ai rien à ajouter. Pour dénicher la trentaine de recettes de cet ouvrage, majoritairement de la pâtisserie, il y a eu un énorme travail de recherche fait par Hachmi Ali dans les archives. Et puis, il y a eu des recettes qui ont été mises au point par la maison Merthe, parce que la petite Marguerite croquait déjà les gaufres de la maison pendant son enfance.
Mère ou Merthe?
Ah, débat selon... Moi, je suis trop du Sud.
Je crois qu'Ali, il préfère mère, malheureusement. Moi, je l'ai toujours mère.
Bon, alors, je vais dire mère. Et dans la maison du Maine où elle habitait, Yourcenar faisait beaucoup de gaufres qu'elle accompagnait d'un coulis aux fruits rouges. Donc, la maison mère a mis au menu des gaufres parfumés aux myrtilles et aux framboises. Marguerite Duras. Mais moi, pour accompagner ces gaufres et pour jouer un peu l'alchimiste au fourneau...
On va jouer la surprise, Estal.
Je vous ai fait tourner une petite boisson magique.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Parce que, effectivement, les gobelets en carton avec cet élixir...
Déconseillé aux enfants.
Oui, en tout cas, circule dans les travées. Monsieur, vous avez une idée de quoi il s'agit?
On retrouve un peu, effectivement, le goût de ce qu'il y a à l'intérieur des gaufres de chez Merckx.
Oui, c'est vrai.
Un peu de rhum, un peu de vanille.
Un peu de rhum.
Ouais.
Beaucoup de rhum.
Beaucoup de rhum en vrai,
j'ai l'impression.
C'est
une boisson enrhumée.
Et non, c'est assez surprenant, c'est assez soyeux. Et très agréable au palais.
Et ben c'est une très bonne définition.
Alors en fait, ça ressemble quand même à une sorte de crème anglaise très très chargée en rhum, je dirais. C'est tout simplement un eggnog. C'était la boisson préférée de Marguerite Yourcenar et de sa compagne Grace Frick. Jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, elle appelait sa compagne la personne avec qui je partage ma maison. Elle partageait aussi la cuisine, une qui mijotait et l'autre qui éminçait les légumes.
Ah oui,
en général.
Cuisine à 80.
Elle cuisinait à 80.
Ça peut bien se passer alors.
Elles avaient l'habitude de faire à la fin de l'année des open house eggnog parties, où tous les amis défilaient chez elle pour goûter cette recette. Alors si vous voulez la faire maintenant, parce que ça se déguste froid pour ce soir, c'est vraiment comme une crème anglaise. 8 jaunes d'œufs battus avec 250 g de sucre semoule, une pincée de muscade, une pincée de cannelle. Vous fouettez, pendant ce temps vous faites chauffer 1 litre de lait entier, frais c'est bien meilleur. Vous faites épaissir à feu doux. Et à la fin, 25 centilitres de bon rhum ambré.
C'est une sorte de lait de poule, en fait.
C'est un lait de poule, mais un peu plus épais quand même, et qui se sert froid de préférence.
Et un peu plus alcoolisé. Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau dont on va déguster? On a goûté ou pas?
Je suis content d'avoir...
messieurs, vin et spiritueux.
Je suis content d'avoir été de fumer, parce que sinon j'aurais explosé au moins à la première gorgée.
À consommer
mais
en
à part
petite
ça,
quantité.
Oui, c'est...
Arnaud,
moi, ça réchauffe. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de manger tout ce sucre pour se piquer le nez au rhum, mais bon, c'est ça.
J'ai respecté la recette pour une fois.
Eggnog. Et ça vient d'où ce nom eggnog? C'est
Lait de poule, là, on a sorte de crème d'œuf, en fait, tout simplement.
Très bien.
La référence du livre, Marguerite Yourcenar, Portrait intime de Hachmi Ali chez Flammarion, avec plein de bonnes recettes, très sucrées, et des recettes qui plairaient beaucoup à Elvira, puisque justement, elles étaient passionnées de culture suédoise, et dedans, on va retrouver les brioches, les cannelles boulard, et aussi le lapel caca.
Apple
caca?
Je pense qu'on va prendre un cours de suédois là, Esterel.
Ah ben allez-y, Elvira.
Apple caca, ça se prononce en vrai Apple caca.
Il n'y a pas
de caca de...
Ouais, à la décharge de...
C'est un gâteau,
d'Estérel. C'est vrai que quand j'ai regardé la recette, Apple caca.
Ça s'écrit bien comme ça, on est d'accord.
Le gâteau en suédois, c'est coca. D'accord.
C'est ça.
Merci Elvira.
Voilà. J'avais bien repéré les roulés à la cannelle scandinave et j'étais effectivement assez étonnée de découvrir ça dans le livre. Et j'ai un peu farfouillé. Et j'ai lu qu'à Bernard Pivot, qui en 79, quand il a enregistré son fameux numéro d'apostrophe dans la maison de Marguerite Yourcenar à Mont-Désert, il usait remarquer « Vous êtes moitié française, moitié belge, vous êtes maintenant américaine, et pourtant je me dis que votre véritable patrie, c'est la Grèce. » À ceci, Marguerite Yourcenar répondait « Je ne suis pas sûre, je crois que j'ai des douzaines de patries. J'ai une passion pour l'Autriche, j'ai une passion pour la Suède, j'ai une passion pour le Portugal, j'ai une passion pour l'Angleterre. Je ne crois pas aux patries exclusives, pas plus que je ne crois aux mères irremplaçables. »
Et ben voilà.
Et il manque une recette dans ce livre côté suédois, qui est une recette qu'on mange en ce moment même en Suède, toujours dans le registre sucré, pâtissier, brioche. C'est les semlor. Les semlor, c'est semla au singulier. Ce sont des brioches qu'on mange en ce moment. Ça commence à Mardi Gras, soit le dernier jour avant le début du carême. Moi, j'adore ça. C'est une espèce de pâte levée à la levure boulangère, parfumée à la cardamome, assez dense. Alors, on va pas se raconter d'histoire, c'est un peu étouffant. On ôte le chapeau. On creuse un peu et on garnit d'une pâte d'amande qu'on appelle mandelmasa.
Waouh ! Ah non, ça doit être diabolique.
Ça s'appelle mandelmasa, la pâte d'amande. On surmonte ça de crème fouettée, on remet le chapeau. on parsème.
C'est une bonne rituelle, non ?
C'est ça. Oui, il y a même un roi de Suède qui est mort après en avoir mangé 14 au 18e siècle, je rigole pas. Donc on arrose au sucre glace. Et puis, ça pourrait effectivement être un peu étouffe chrétien, mais en fait,
ouais,
non.
Ouais, ça pourrait.
Non, parce qu'on sert ces brioches dans une assiette creuse.
Ah bah ça va alors.
Et on arrose. Non, c'est pas ça. Et on arrose de lait chaud.
Qu'est-ce que c'est que cette attente à pâtissier ?
On peut faire carême pendant 6 mois. Voilà.
C'est ça, on peut faire carême pendant 6 mois et on prend effectivement des forces, mais c'est diabolique ce que vous nous
avez fait. C'est diabolique et c'est délicieux. J'en mange rarement.
Et ça s'appelle le semlor.
Le semlor.
Et vous avez commis l'impair de ne pas nous le préparer.
Ouais, trop compliqué, là, puis trop de production, là, lait chaud, crème fouettée, etc. J'ai eu peur qu'on s'étouffe.
C'est un
scandale. J'ai eu peur qu'Arnaud s'étouffe.
Ce sera donc pour une prochaine fois.
On va déguster. Sur France Inter.
Arnaud Daguin, on continue à voyager avec vous, en Europe et même dans le monde, avec des femmes d'ici qui cuisinent des recettes d'ailleurs, et des femmes qui sont fidèles à leurs origines algériennes, afghanes, cambodgiennes.
Vous savez que les bouquins de cuisine, j'en lis jamais. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous conseiller la lecture d'un bouquin de cuisine, donc. Mais je vous le dis tout net, ce ne sont certainement pas les transcriptions des recettes qui font l'intérêt de ce chouette bouquin qui s'appelle « Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs ». Derrière ce titre trop long et cette couverture jaune violemment citron, se cachent 5 chenapans venus se faire nourrir par 15 mamans de toutes les couleurs. Ben oui, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça depuis la nuit des temps, hein, les chenapans se font nourrir par les mamans. Un photographe, un dessinateur, un écrivain, un directeur artistique et un nutritionniste s'invitent chez 15 résidentes d'une morne cité de la banlieue de Lyon. Ces mères planétaires racontent leur histoire sous les yeux, l'objectif, les pinceaux et la plume des 5 garçons. Leur histoire, c'est l'exil, c'est la guerre, c'est le deuil, c'est la galère. C'est aussi les fêtes, les espoirs, les gamins, les anciens, les traditions. Elle raconte et elle cuisine. Elle cuisine quoi ? Oh, ben rien d'extraordinaire, hein, du riz tout le temps, de la semoule, des pâtes. Bref, la base de la tambouille maternelle, un oignon par-ci, un poivron par-là, et un ingrédient commun à tous ces plats, le cœur. Le tout bien relevé. Les photos, les aquarelles du livre sont magnifiques, les histoires touchantes et bien troussées, les plats alléchants. Tout est bien, jusqu'à ce qu'on arrive aux recettes. Et là, bien sûr, trahison. Comme d'habitude, hein, l'écrit peine à transmettre cette cuisine passée de main en main depuis ses origines. Une cuisine d'instinct, sans proportion ni temps de cuisson. Une cuisine qui se lègue de mère en fille en cuisinant ensemble. Fazia, d'ailleurs, qui prépare les cornes de gazelle, nous le prouve en beauté. À la question « Combien de temps de cuisson ?», elle répond « Je sais pas, j'enfourne, je surveille et quand c'est cuit, je défourne. » Tout est dit, merci Fazia de remettre le minaret au milieu du village. Mais qui est donc derrière cet ouvrage ? C'est l'association VRAC et son animateur infatigable, Boris Tavernier, un des chenapans venu se faire sustenter par ses mères nourricières. Depuis 2013, l'association VRAC, véritable groupement d'achat populaire, permet aux habitantes de ces quartiers absolument pas bobos d'acheter au bon prix de vrais bons produits. Régulièrement, Boris et ses complices livrent à ses ménagères accomplies leurs commandes et ce sont les membres de l'association qui se chargent de servir au détail ce qui a été commandé en vrac, justement. VRAC amène les bons morceaux dans les bas quartiers. Non, bon, ça fait rien.
C'est sûr, la même.
Et pas seulement de la bouffe. VRAC livre aussi des produits d'entretien et d'hygiène absolument irréprochables. J'ai même ouï dire qu'ils allaient proposer des services comme les assurances habitation ou des mutuelles santé. En voilà une épatante initiative en train d'essaimer d'ailleurs à Strasbourg et à Bordeaux. Les jeunes gens de Vrac sont infatigables, ils embarquent leurs cuisinières dans des concours chapeautés par de grandes toques locales. J'ai ouï dire que mon copain Alexandre était là-dedans.
Ah.
Et Grégory Cuilleron aussi, enfin bon, voilà.
Quelques Lyonnais, hein.
Ouais. Ils les entraînent aussi dans des escapades à la campagne, histoire de mettre ces urbaines au contact des paysans qui les nourrissent. Bref, Vrac a tout compris des urgences de notre époque, de bons produits au bon prix pour tous, du lien entre ceux qui produisent et ceux qui ont besoin des produits, de la cuisine ensemble, des échanges et du partage. Continuez les jeunes et longue vie à Vrac. Quant à vous, chère mère nourricière, je nourris l'espoir qu'un beau jour, vos Lascar, vos Yacine, vos Kim Kuang, vos Alvaro, vos Boubacar vous emprunteront fièrement votre tablier de cuisine et que le deuxième tome s'intitulera donc « Femmes et garçons d'ici, cuisine d'ailleurs » aux éditions Albin Michel.
Bravo pour ce coup de cœur, Arnaud. Et ça se passe effectivement chez Albin Michel. Vous pouvez pas louper ce livre à la couverture, donc violemment citron. On l'a bien noté, ça fera plaisir du côté d'Albin Michel, mais c'est un très bel ouvrage et qui prouve une fois de plus évidemment que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes, c'est tout simplement de la culture. L'Europe, toujours à l'honneur avec Antoine Gerbel. On prend avec vous la direction d'Anvers, non pas pour un livre, non pas pour acheter des diamants non plus, mais pour trouver la nouvelle perle de la sommellerie.
Eh oui, cette semaine se déroulait le 50e anniversaire, en fin de compte, de ce fameux concours qui est le meilleur concours du sommelier du monde. Ouais. Alors, pendant 5 jours, l'élite de la sommellerie se réunit, s'enferme, et on leur pose plein de questions terribles. On leur demande de découvrir des vins improbables, des vins pas seulement, tous les liquides, puisqu'ils devaient être bons dans le thé, le café, les alcools. Et ces garçons et ces filles doivent, pendant 5 jours, être vraiment rincés. Alors, nous, on avait beaucoup d'espoir d'un magnifique français qui s'appelle David Biro, qui présentait le concours pour la 4e fois, et le pauvre, il a malheureusement échoué en demi-finale à la surprise de tout le monde, en fin de compte, parce que j'expliquerai un petit peu pourquoi. En fin de compte, les 3 finalistes étaient un Lettonien, Raymond Thompson, une Danoise, ouais, Nina Osgard Jensen, très jeune, et le vainqueur, c'est un Allemand, il s'appelle Mark Elmert. Mark Elmert, il a seulement 28 ans, il travaille à Zurich, près du lac de Zurich, il est très francophile, c'est une bête à concours.
Remarquez, vaut mieux être francophile quand on
embrasse
la carrière de sommelier.
C'est vrai, mais vous savez qu'il y a de plus en plus de candidats asiatiques, ouais, et je pense qu'un jour, un grand sommelier aura le titre en Asie, et ils sont un peu moins francophiles. Simplement, Marc, c'est un peu cette petite machine de guerre qu'on voit déjà depuis, c'est tous les 2 ans le concours, émerger dans ces concours. C'est des gens très précis qui parlent avec un vocabulaire en anglais. Ils ne doivent pas concourir dans leur langue maternelle, donc la plupart sont souvent en anglais. Et c'est un vocabulaire très normé, très compréhensible, mais pas très émotif, pas très poétique. Et c'est un peu l'handicap contre tous les Italiens, les Espagnols et les Français, parce que on se projette, les sommeliers projettent leur affectif dans le vin, et ils perdent beaucoup de points en fin de compte dans ces concours, parce que David Biro, quand même, c'est quelqu'un qui a une connaissance immense et qui a fait beaucoup de travail sur lui, parce qu'il était très émotif, il avait énormément de mal pour parler en public. C'est dans une salle immense, ça se passe, hein, le concours, c'est en public, c'est qu'il faut vraiment le supporter. En tout cas, bravo à l'Allemagne, c'est ce que je crois sur le 3e meilleur sommelier allemand. Donc on imagine souvent pas forcément l'Allemagne comme la grande patrie du vin et de la sommellerie, mais elle l'est encore une fois, et félicitations à Mark Elmert.
Et c'est podium totalement européen.
Totalement européen, avec effectivement, vous savez que les Japonais avaient fait très fort en présélection, il y avait 2 Japonais, et ils ont échoué aussi en demi-finale. Le concours était très relevé, principalement dans le choix de vins qui, effectivement, ont étonné beaucoup de gens.
Dominique, vous avez suivi cette compétition ?
Oui, effectivement, Antoine a raison, c'est un investissement total, entier, de plusieurs années. On peut faire le rapport avec, par exemple, un Kasparov qui s'entoure de sparring partner pendant plusieurs années, aux échecs, et en l'occurrence c'est strictement la même chose, ce sont des gens qui dégustent, et c'est vraiment parfois complètement retors. Donc oui, on peut imaginer le soufflé qui sort du four, le pauvre David qui a mis beaucoup de son investissement pendant de longues années, mais bon, il est là, il se représentera peut-être.
Et rappelons que David Biro est sommelier du restaurant Le Mandarin, enfin de l'hôtel Mandarin à Paris.
À côté du chef Marx. Dernière anecdote, Marc, le jeune Marc, il a peut-être marqué beaucoup de points avec quelque chose de très intéressant. On lui a servi, donc il y avait dans l'exercice en salle, une bouteille de Vega Sicilia Unico, ce très grand vin espagnol. Et il a eu cette réponse, je pense, qui a dû toucher. Honnêtement, je n'ai jamais goûté ce vin. Merci monsieur pour avoir commandé cette adorable bouteille. Il faut avoir de l'aplomb quand vous faites le concours, plutôt que vous avouez votre ignorance et vous le retournez dans votre sens.
Notre pause musicale arrive à grands pas. Le temps de Bah, on va écouter un peu de musique tout en remplissant nos verres d'une petite cuvée coup de cœur en une poignée de secondes.
Voilà, François-Régis, vous m'avez dit amène un vin plutôt convivial. Oui. Et voilà, je l'ai choisi hier soir, comme souvent je fais pour l'émission. C'est un vin de l'Ain, on est dans le Bugey. C'est un blanc, c'est signé Jean-Christophe Pellerin. C'est un assemblage. Généralement, c'est de l'Altesse, le cépage Altesse. Mais en 2017, beaucoup de gel, on s'en souvient. Donc, il a mélangé un peu tout ce qu'il avait sous la main. Il y a du chardonnay, il y a quatre cépages blancs. C'est très peu dosé en soufre. C'est très minéral, on parle souvent de ce terme, il faut le goûter ce vin pour encore une fois.
Et en même temps, belle aromatique.
Et généreux parce que c'est 2007. Voilà, c'est à 30 km à l'est de Lyon pour donner à peu près une idée. C'est un vin de table, hein, mais comme vous savez très bien aujourd'hui, les vins de table peuvent être des très grands vins. Voilà, Jean-Christophe Pellerin, j'avais envie de faire partager ça. Et ça coûte 12 euros.
Et c'est ça qui est intéressant.
Dans le commerce, vraiment chez les cavistes, voilà, 12 euros.
Et notre vigneron travaille accessoirement en biodynamie.
Il a basculé en biodynamie en 2008, ça fait plus de 10 ans. Et j'ai retrouvé une interview qu'il avait faite, il raconte que je voulais me mettre au bio, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré la biodynamie, je dis directement la biodynamie pour faire ce type de vin.
Très bien, vous nous rappelez juste le nom du domaine et du vigneron.
Jean-Christophe Pellerin, sa cuvée s'appelle Fucette Blanc 2017.
Toutes nos infos, nos coups de cœur sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, on va partir à Venise avec Elvira, on va partir également du côté d'Amsterdam avec Dominique. Un petit peu d'Irlande avec Esterelle Pagnani et bien d'autres choses à découvrir. Vous allez swinguer maintenant. Attention, M, grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con,
qui n'oublie pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.
On va déguster, est installé en plein cœur du Salon du Livre de Paris, 39e édition. Il y a un public très chaleureux, merci beaucoup d'être là.
La fine équipe dont on va déguster presque au complet, notre libraire gourmande Déborah Dupont, notre chroniqueur vin historique Dominique Hutin, notre chroniqueuse historique Elvira Masson, notre chroniqueuse tout-terrain Estherelle Payani, notre coup de la miste Arnaud Daguin et notre autre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Merci à vous les amis d'être là dans, avec vos coups de cœur, vos partis pris, votre bonne humeur. Je disais que l'Europe était l'invité de la 39e édition du Salon du Livre. Si je ne m'abuse, l'Irlande fait partie de l'Europe et aujourd'hui, c'est un jour particulier pour les Irlandais.
Eh oui.
Estherelle Payani.
Après la marguerite, on va passer au trèfle, puisqu'on fête la Saint-Patrick aujourd'hui. Personne n'a de verre sur le plateau, peut-être par superstition.
Mais personne n'a apporté de bière.
Ah, dommage, on a raté la stout. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une fête nationale, mais bien une fête religieuse et un jour férié aujourd'hui. Si vous voulez le fêter chez vous et préparer des recettes, le plus simple, ça va être de regarder, d'écouter en podcast l'émission sur la cuisine irlandaise qu'on avait fait l'année dernière, François Régis,
oui.
Avec Alice Quillet de Ten Bell Breads, qui nous avait apporté un gâteau au chocolat, je sais pas si vous vous souvenez,
ah ouais.
À la Guinness, ah avec ouais. Des dégoulinades de chantilly absolument indécentes, et une délicieuse recette de soda bread, un pain express au flocon d'avoine, que vous pouvez faire tout de suite chez vous et manger pour le repas du déjeuner dominical, histoire de fêter la Saint-Patrick.
Ça vaut vraiment le coup d'aller retrouver cette recette de soda bread qui a connu une certaine carrière auprès des auditeurs dont on va déguster. C'est vraiment, comme vous le dites, un pain express en quelques minutes. Un pain d'origine irlandaise et même anglo-saxonne.
Des flocons d'avoine, du lait ribot, à peine de l'huile de coude et hop, on en fournit, c'est prêt.
Oui, voilà. Et ça, on peut retrouver tout ça dans les archives dont on va déguster. Merci beaucoup pour ce rappel, Estherelle Payani. La stout, la ale vont couler à flot, évidemment, dans tous les pubs irlandais aujourd'hui. En parlant de bière, Dominique, on part avec oui. Vous en Hollande, plus précisément à Amsterdam, où vous nous faites découvrir un lieu tout à fait particulier.
Oui, tout à fait. C'est vrai que tout à l'heure, hors antenne, vous m'avez confié avec beaucoup de gourmandise dans la voix. Ce que vous aimiez par-dessus tout à Amsterdam, c'était faire du lâche-vitrine. Donc je...
Je pensais que vous alliez brancher sur d'autres substances moins légales. Mais...
du tout. Non, mais je porte pas de jugement. La preuve, c'est même, je vais vous refiler une de mes bonnes adresses là-bas, un peu comme on confie ses coins à champignons à un vieux copain. Alors en l'occurrence, il s'agit de bière, effectivement, parce que les Pays-Bas, c'est quand même un géant brassicole. Sauf qu'au cœur de la ville, vous pouvez trouver des brasseries artisanales. Oedipus, Deprel, il y en a 5 ou 6 qui sont intramuros. Et si vraiment aller visiter les brasseries, c'est trop d'efforts pour vous, vous pouvez buller en toute conscience chez Sterk, qui est un magasin. Alors, un magasin, c'est plutôt un paradis brassicole, dans le sens où il y a plusieurs milliers de références de bière.
Plusieurs milliers.
Plusieurs milliers de références de bière du monde entier. Et par exemple, lorsque moi je suis passé, j'ai pu attraper quelques lots d'une bière qui, d'ordinaire, est extrêmement contingentée. C'est une bière belge qui s'appelle Westleveren, pardon, 12, avec une quarantaine même de cidres européens qui voisinent avec cette bière.
Comment elle s'appelle cette bière?
Non, pas deux fois. Non, ça je connais, pas deux fois. C'est le vin blanc que vous m'avez servi tout à l'heure. Il est belge sûrement. Voilà. Alors. Si vous avez vraiment envie d'aller goûter cette fameuse bière, vous avez noté le nom? Ouais, voilà, c'est ça. Vous pourrez y aller ce soir, le magasin ferme à 1h du matin.
Ah, très bien, on a le temps de prendre le train.
Vous pouvez y aller, voilà. Alors, moi je réside toujours un petit peu dans ce quartier-là quand je vais à Amsterdam pour les raisons que vous pouvez imaginer, parce qu'en plus vous pouvez repartir avec votre bière au frais, on vous donne du glaçon, du sourire, et ça c'est vraiment très très sympa. Si vous êtes français un peu perdu là-bas, que vous êtes un petit peu en mal de vin, il y a aussi une très très bonne adresse. C'est un caviste francophone, très très sympa. Alors là, j'ai un problème parce que c'est un nom de nouveau néerlandais. On y va. Vlik Vinen. Ça va? Ça
ouais,
va te porter?
Là, c'est bon.
Alors, plutôt que de déformer le hollandais une autre fois, j'ai tout écrit sur le site de France Inter. On va déguster. Vous aurez l'adresse exacte. Et puis, si vraiment vous avez envie, comme moi, de vous en tenir au français, il y a notre éditeur Menu Frottin, notre collègue Laurent Séminel.
Absolument.
Qui a sorti une collection qui s'appelle Le Voyageur Affamé.
Oui.
Avec un volet d'Amsterdam. On trouve aussi Rome, Lisbonne, Cracovie, Bruxelles, Londres. Et ça coûte 8,90€. C'est à peu près le prix d'une bière sur ce qui reste des Champs-Élysées.
Très bien, merci beaucoup Dominique d'Amsterdam. On passe à Bruxelles avec vous, Déborah Dupont.
Je ne vous chanterai pas « oh les filles », même si Lynn et Catherine du restaurant « Les filles » à Bruxelles ont largement de quoi nous rendre marteaux. D'ailleurs, les clients de leurs 3 établissements ne s'y trompent pas et s'y régalent depuis plus de 10 ans maintenant. Ce livre, édité dans la maison belge Racine, porte fièrement les fondamentaux de ses filles, saisonnalité, produits locaux, fermiers, bio, artisanaux.
Elles tiennent vraiment un resto là-bas.
Elles tiennent 3 restaurants, et d'ailleurs je suis persuadée que lors de votre prochain passage à Bruxelles, vous n'hésiterez pas à y aller. Le lunch, menu à 21,90€, Dîner à 36 et le brunch le dimanche, samedi, dimanche et jour férié à 31,90 €. L'hiver dont nous sortirons dans quelques jours fait la part belle aux légumes, racines, chicons, oignons, poireaux et agrumes. Et je vous ai concocté une petite recette qui mêle fruits et légumes.
Donc on a faim.
Orange et mandarine en salade de poireaux vinaigrette.
Non mais attendez, les assiettes sont en train de circuler.
Alors aujourd'hui on partage, c'est très convivial. Hein,
on est passé au carton d'ailleurs hein, maintenant depuis un petit moment. Enfin, il y a un petit couvert en plastique mais c'est une parenthèse. On est dans le recyclable.
Et recette très très simple, 500 g de blanc de poireaux qu'il suffit en fait de couper, de faire cuire à la vapeur une dizaine de minutes. Des oranges qu'on va éplucher à vif et couper en très fines tranches et une vinaigrette qui change tout puisque c'est une vinaigrette à base de jus de mandarine, citron, vinaigre de chardonnay, moutarde à l'ancienne, un petit peu de fleur de coco, de l'huile d'olive, sel, poivre,
alors,
et c'est parti.
Commentaire autour du plateau dont on va déguster.
Il y a
des accords qui sont en train de se séparer.
Ça change tout. Mais comme le vin a un petit côté agrume citronné, je pense que voilà, le hasard fait bien les choses.
C'est vraiment bon.
Elvira.
Le mariage marche très bien, non?
Le mariage, j'adore. Effectivement, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'orange en salé, que je fais généralement avec de l'ail, des olives, des choses comme ça, un peu plus à la marocaine. Mais à la belge, c'est pas mal non plus.
Orange, mandarine, citron, c'est encore évidemment la saison. Et on pense jamais assez. Enfin, on pense jamais. On y pense évidemment, mais c'est vrai que ces agrumes, c'est aussi une manne hivernale extraordinaire pour assaisonner les salades. Et notamment la vinaigrette, on remplace un vinaigre par un jus de mandarine ou un jus d'orange. Et ben, ça métamorphose littéralement une salade d'endive, par exemple, ou une salade d'herbes amères. De puntarelle romaine, etc.
Il y a un autre avantage dans ce plat, c'est que les 5 fruits et légumes par jour, vous les avez en une seule fois.
Ça vous arrange, hein, Dominique?
Bah après, vous pouvez reprendre du saucisson, du jambon, du pâté, parce que vous...
C'est ça.
Et du jus de raisin aussi.
Et du jus de raisin aussi, oui, c'est ça. Bah écoutez, on est tous d'accord. Merci beaucoup pour cette recette. Vous nous rappelez juste les références du livre, Déborah Dupont.
Les filles cuisinent gourmand local et de saison, édition Racine.
Merci.
On va déguster. Sur France Inter.
Bon, Elvira Masson l'a un peu ramené avec sa Suède, mais presque natale.
J'ai pas pu m'empêcher.
Il y a quelques minutes, là, alors vous êtes dans un coup de cœur qui géographiquement se situe entre, on va dire, Venise et l'Angleterre. Enfin, c'est plutôt l'histoire d'une Anglaise qui est à Venise.
C'est exactement ça. C'est encore un livre de recettes publié par les éditions Ulmer, qui décidément ont beaucoup de goût. Ils ont publié, traduit en français, le livre de Anna Jones dont on avait parlé il y a exactement un an ici, qui était un livre de cuisine végétarienne, formidable aussi. Donc effectivement, c'est une Anglaise, elle s'appelle Sky McAlpine, et son livre n'a rien à voir avec l'Angleterre, puisqu'il s'appelle Une table à Venise. Elle vit depuis qu'elle est enfant à Venise, ses parents étaient installés là-bas, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup vécu ailleurs depuis, mais désormais c'est bien à Venise qu'elle passe le plus clair de son temps avec sa famille, dans une petite maison rose aux volets verts, au bord d'un canal d'un quartier un peu excentré. Et si je précise ce à quoi ressemble sa maison, la simplicité de sa maison, c'est qu'avec un titre comme Une table à Venise, on pourrait craindre un peu le genre palazzo inaccessible avec des dîners extravagants, des nappes damassées, éclairage à la Barry Lyndon.
C'est le pas trip du... vénitien,
ouais,
quoi.
Ouais, voilà. C'est pas du tout, du tout ça. C'est précisément pour ça que je suis quasi amoureuse de ce livre. Sky McAlpine, elle nous emmène à la rencontre de son Venise à elle, celui de tous les jours, celui qui la conduit pratiquement tous les matins au marché du Rialto ou sur les petites barges itinérantes au bord des canaux. Toujours tôt, parce qu'à Venise, au Rialto, c'est vraiment à midi pile que les maraîchers remballent et où elle n'achète que le nécessaire pour la journée ou pour la suivante, parce qu'évidemment, elle circule à pied. Les supermarchés sont rares, ils sont trop loin, ils sont trop chers. Ce marché du Rialto aux étals si petits qui sont tenus par des familles qui souvent cultivent leurs légumes dans leur jardin, dans leur petit lopin de terre de l'île voisine de San Erasmo, comme ces bruscandoli dont elle nous parle. Est-ce que vous savez ce que c'est des bruscandoli? Vous savez, vous, François Régis, non?
Bah non. Non, j'ai cru que vous alliez nous parler
J'ai réussi à le coller.
Non, mais des artichauts de San Erasmo qui sont absolument
évidemment,
magnifiques.
Évidemment, que l'on vend d'ailleurs dans des petites poches déjà pelées, déjà prêtes à l'emploi en ce moment, parce que c'est la saison. Les bruscandoli, exactement, citronnés, sinon ils noircissent. Ouais. Les bruscandoli, c'est une sorte de houblon sauvage qui se pousse en ce moment même dans la lagune et qu'on prépare comme des asperges.
Oh là là.
Alors Sky McAlpine, elle prétend pas du tout à l'exhaustivité. Hein. C'est son Venise qu'elle nous propose, les recettes qu'elle fait à la maison. Par exemple, pas de recette de morue à la vénitienne parce qu'elle ne fait pas la morue à la vénitienne à la
donc
maison. Elle
pas de bac à la mantecato.
Exactement. En revanche, des fondi di carciofi comme prezzemolo, c'est-à-dire les fonds d'artichauts frits à la persillade, une tourte aux épinards à la ricotta, des lasagnes de faisan magnifiques au radicchio, des sardines quasi insaor, elle ne les fait pas complètement insaor à l'aigre douce, elle les fait un peu à sa façon.
Quasi insaor, ah ouais. J'adore.
Une tarte aux pignons.
Vous pourriez le traduire en hollandais.
Ah, je me lancerai pas là.
Suédois,
même pas, je peux pas. Une tarte aux pignons magnifique. Et également, 4 cocktails à base de Prosecco. Alors, je vais tester vos connaissances. Le cocktail à base de Prosecco le plus connu, c'est le Spritz. On connaît ?
Oui, jusque-là, ça va.
Prosecco plus un bitter, Campari ou Aperol. Qu'est-ce que le Bellini ?
Ou un bitter artisanal, parce qu'il y a
le Cynar, par exemple. Le Cynar, qui est effectivement le bitter original avec lequel on fait le Spritz. Le Bellini, c'est quoi ?
Purée de pêche blanche.
Et champagne.
Prosecco.
Allez, Prosecco, oui, pardon.
Esterelle qui s'y connaît.
Le Bellini, j'adore ça. Et je suis capable de faire de la purée de pêche blanche que je mets au congélateur.
Alors,
pour après
très bien.
Faire,
alors, Esterelle.
On la sort avec, en fait.
Esterelle, vous avez la parole, gardez-la. Qu'est-ce qu'un Rossini ?
Non, la musique et moi, ça fait pas deux.
Rossini autour de la table.
Le tourne-dos, du jus de tourne-dos dans
Prosecco. Non, mais le Rossini liquide.
Messieurs vins et spiritueux, là, Antoine Germel,
j'ai loupé mon diplôme de mixologie.
Prosecco et purée de fraises à la place de la purée de pêche blanche.
Ah, oh. Difficile.
Et pour finir, le Tintoretto. C'est Prosecco et...
Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse dans le public ? Le Tintoretto.
Poireau ?
Non, les fameux rouges du Tintoretto.
De la betterave ? De la fraise ?
Non, la fraise, c'était le Rossini. Du jus de grenade.
Ah, c'est très Prosecco.
Ouais. Pas mal, hein ?
Bah, ouais. Bravo, ouais. Formidable.
Magnifique, celui-là.
On va essayer après.
Sky
hein.
McAlpine prend après toutes les photos elle-même. C'est son Venise, c'est une merveille. Je suis amoureuse de ce livre. Je voudrais qu'elle m'adopte. Je voudrais vivre avec elle.
Merci beaucoup. Évidemment, on ne peut pas faire un On va déguster spécial livre de cuisine et livre de vin aussi, évidemment, sans évoquer le succès foudroyant de notre Dominique Hutin-Maison. On est vraiment très fiers, Dominique. Grand cru déclassé aux éditions de l'épure. D'ailleurs, il y a Sabine Buquet, notre éditrice, une de nos éditrices préférées, qui est juste devant nous, avec le co-auteur du bouquin, Gérard Descrambes. Vous, pour vraiment ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de ce livre, qui reviendraient par exemple d'un congé sabbatique sur Mars, vous avez une trentaine de secondes pour nous pitcher ce livre, Dominique.
Alors effectivement, il y a beaucoup de dessins parce que le sous-titre, c'est Harakiri. Il y a une histoire d'un vigneron, une chronique qui s'étale sur 50 ans et c'est un bouquin qui est né dans le studio 521. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, justement, parce que Gérard Descrambes, que vous avez cité, entretient une grande proximité. Il faut savoir que les gens de Harakiri, dans les années 70, sont les seuls à s'intéresser aux considérations environnementales à cette époque-là, et que Gérard Descrambes, il vous le dira mieux que moi, a une particularité sur son domaine, puisque son père a créé Nature et Progrès dès les années 50. Il voit ce grand bordel agricole se profiler, et donc ce sont des gens qui ont fait du bio avant du bio. Avant que le bio ne s'appelle bio, voilà, c'est les pionniers qui ont raison avant les autres.
Et ce livre, Dominique, précisons avant de donner la parole à Gérard, que ce n'est pas qu'un simple portfolio d'étiquettes, même si tous nos
Alors,
amis
effectivement, il y a des dessins, mais il faudrait vraiment être aveugle pour n'y voir que des images. C'est l'histoire du bio, c'est l'histoire d'un domaine, c'est l'histoire de Harakiri, c'est l'histoire de Bordeaux, et au final, sur 50 ans, c'est l'histoire du vin, et puis un petit peu, malheureusement, avec ces attentats, un tout petit peu l'histoire de France aussi qui est logée dedans.
Gérard Descrambes, vigneron à Saint-Émilion, pionnier du bio. Comment vous vivez l'aventure de ce livre un peu partout en France et maintenant en Europe et peut-être dans le monde d'ailleurs?
Ah, c'est un peu agité sur les bords, hein, mais bon, pour commencer, le titre d'abord me vient de dire, je ne dirais pas qui l'a inventé.
Dominique
Hutin. Il ne veut rien dire, mais il est très très beau. Hein, voilà. Et puis, après, bon, effectivement, c'est l'histoire d'un vignoble et d'un vigneron que je connais bien finalement. Qui a deux coquetteries principales, effectivement. La première, c'est la bio, pour laquelle mon papa a commencé à militer dès les années 50. Et la seconde, c'est le moment où j'ai pris les rênes du vignoble depuis les années 70. Je suis tombé sur un Père Noël qui s'appelait le professeur Choron parce qu'il m'a fait une première commande. Et puis après, je suis allé les voir, ces gens-là. C'est devenu une très belle histoire d'amour, au point que François Cavanna est devenu le parrain républicain de mon fiston. Et il y a toutes ces... Alors, en gros, c'est 45 millésimes et 57 étiquettes, plus quelques enluminures, très, très politiquement correctes. Enfin, jusqu'à un point.
Jusqu'à un certain point, ouais.
Et puis voilà, moi je viens de découvrir une vertu médicinale à ce, à ce livre, à savoir que bon, si vous allez dans les toilettes et que vous êtes un petit peu dérangé, d'un côté vous changez de millésime, vous n'êtes plus ni constipé ni l'inverse, et si jamais vous faites une crise aiguë de neurasthénie, vous penchez vers les pages saumon qui sont écrites par Monsieur Hutin, et là, vous êtes guéri immédiatement.
C'est ça. Et chez Gérard Descrampes, notre vigneron, le militantisme, votre engagement en faveur du bon vin et de l'environnement s'accompagne toujours également de bon vivance, et on en a la preuve puisque vous débouchez un cru. De quoi il s'agit,
oui,
Dominique?
Alors, c'est une étiquette illustrée par Reiser, c'est 1988.
1988, vous nous gâtez là.
Oui, disons-le, le combat, ce qui a été mené par Gérard, c'est faire du bio à Bordeaux, à Saint-Émilion, dès les années 50, puis installer ses étiquettes dans les années 70. La chose n'était pas gagnée d'avance.
Auriez-vous la gentillesse de décrire l'étiquette qui est également la couverture de votre livre chez Les Purs?
Elle est le génie, le trait génial de Reiser. Il n'y a pas de légende, c'est un homme qui est à quatre pattes avec un nez rouge et un vert sur le dos, ce qui ne veut rien dire, qui est tout à fait plat lorsqu'on le dit. Mais lorsqu'on le voit, il y a une forme d'évidence tout à fait formidable. C'est la première étiquette, voilà.
Gérard Descrampes et Dominique Hutin, vous avez du succès partout où vous passez, hein, faut le préciser.
Mais ça parle de considération environnementale, ça parle du vin, ça parle de la société, ça parle d'une foultitude de choses qui sont entremêlées. Et Gérard, je dois le dire, a écrit beaucoup plus de choses que prévu. Il a un talent de plume naturel. Et vous avez une chronique vigneronne qui se déroule sur 50 ans.
Grand cru déclassé, Gérard Descrampes, Dominique Hutin, les éditions de l'Épure, et vous êtes en dédicace juste après sur le stand de France Inter pour tous nos amis peuvent s'y retrouver. On va se boire un petit coup justement
de
Saint-Émilion. On finit avec une petite recommandation toujours européenne. On part au Pays Basque espagnol avec vous, Arnaud Daguin. Vous avez une petite minute pour
partager une adresse qu'on aime beaucoup aussi avec Elvira. Un coin du monde où on n'a pas oublié ce que c'était que jouer avec le feu. En fait, Je veux vous parler d'un restaurant, mais c'est pas seulement de ce restaurant que je voudrais vous parler, c'est de ce coin du monde, qui est donc le Pays Basque Sud, comme on dit là-bas, celui qui est ultra-pyrénéen. Donc on est à Guetaria, le restaurant dont je vais vous parler s'appelle El Cano. Mais ce n'est pas le seul, c'est une auberge, comme il y en a plein dans ce coin-là, et c'est une auberge où on sait encore jouer avec le bois qui brûle, donc on ne quitte pas les considérations environnementales. On parle de carbone, là, pour le coup, de stockage et de déstockage. Mais il est vrai que c'est une énergie qui est quand même formidable. Et pour moi, le cuisinier défroqué que je suis, je regrette un peu que nos jeunes cuisiniers ne sachent plus fonctionner avec du bois qui brûle et avec la braise, notamment. Donc, El Cano, c'est quand même un des rares endroits du monde où on peut se mettre à 7 ou 8 autour d'une table pour manger un turbo de 5 kilos grillé entièrement de A jusqu'à Z au-dessus.
Incroyable.
D'une braise de charbon absolument dingue.
Rien n'est perdu. On suce les arêtes, on mange les joues.
Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. J'ai, il n'y a pas très très longtemps, dégusté aussi une ventrèche entière de bonite, qui est quand même pour moi cuisinier l'exercice de style le plus difficile qui soit. À faire à la braise, hein, donc avec le caramélisé côté peau, la graisse bien fondue à l'intérieur, encore rosée et juteuse, alors que la bonite, vous le savez, c'est pas du thon, hein, c'est assez étroit comme morceau. Cette maîtrise-là, on la retrouve dans ce coin-là. J'espère que nos jeunes gens iront y faire école, enfin, ou en tout cas apprendre ces techniques-là. Allez donc faire un tour du côté de la côte basque sud et allez voir comment là-bas on sait encore jouer avec le feu, pas comme sur les Champs-Élysées il y a 24 heures.
On s'y était attablé après une émission spéciale Biarritz. On va déguster, avait dressé le couvert à Biarritz. Et ensuite, avec Elvira, nous étions partis sur ce Pays Basque espagnol à Guetaria et on s'était arrêté à El Cano. On pourrait penser a priori que la cuisine à la braise, c'est quelque chose d'approximatif. On les voit en train de lever
C'est une science.
Incroyable. C'est une bien, technicité, hein, incroyable. Ouais. Ce que l'on ressent comme émotion est absolument incroyable aussi.
On est d'accord.
Et extraordinaire. Ému, ouais.
Ouais, très très bon souvenir. El Cano, le salon du livre, ça se passe porte de Versailles jusqu'à demain lundi. 391 stands et des milliers de livres à découvrir, des débats, des séances dédicaces. Merci à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses, pour votre passion, votre enthousiasme, votre bonne humeur. Merci aux équipes de Radio France d'avoir organisé ce duplex en direct du salon du livre. Merci à vous, cher public. Merci beaucoup. L'aventure dont on va déguster se poursuit sur les sites web et réseaux sociaux de France Inter. Retrouvez le nouvel épisode de notre collection Tout un plat consacré à la carbonara, la fameuse spécialité romaine. C'est en ligne à partir d'aujourd'hui sur franceinter.fr à la page on va déguster. Les coups de lame de Arnaud Daguin sont également disponibles sur les réseaux sociaux de France Inter. Signalons juste les états généraux du lait cru en un mot.
Voilà. Rendez-vous tous le 27 mars au 104 rue de Vaugirard, au Forum 104 pour les états généraux du lait cru. Le lait cru en a besoin et donc Véronique Richer-Lerouge et son équipe vous attendent, nous attendent tous pour défendre nos fromages au lait cru.
Et on soutient à fond cette initiative la semaine prochaine. Un passionnant tour du monde des volcans. Oui, vous allez voir, les volcans ont enfanté des vins, des produits, des recettes formidables. Les volcans nourriciers, Arnaud Daguin et Jérôme Gagné seront du voyage. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.